n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
À la base, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Caméra Subjective, le magazine de Radio G consacré à l'actualité du cinéma. Vous pouvez nous écouter en direct sur ce 101.5 FM, un mercredi sur deux à 19h, ou en podcast, quand vous voulez, sur le site de Radio G, à la page de l'émission. Comme toute bonne émission, celle-ci est collective. Nous sommes cinq ce soir dans le studio et derrière nos micros. Bonjour Sandra.
Bonjour Véronique.
Bonjour Claire.
Bonjour Véronique, bonjour à tous.
Bonjour Matt.
Et bonjour Véronique.
Et bonjour Lisa.
Bonjour.
Merci Lisa qui est derrière la console. En plein cœur de cet hiver tout doux, nous vous avons concocté une émission composée de chroniques, mais aussi d'un quiz cinéma. Ce soir, Sandra tourne la page du mois de janvier en revenant sur le festival Premier Plan qui s'est déroulé la semaine dernière à Angers. Et nous propose un aller simple vers le mois de février avec un quiz glam et sentimental spécial Saint-Valentin. Claire, après Fabio et Chloé, tu nous présentes un nouveau portrait de spectateur, celui d'Éric. Quant à toi, Matt, nous attendons avec impatience ton billet d'humeur. Nous commençons donc avec Sandra et la première partie de ton quiz cinéma préparé avec amour, amour, amour.
Et oui, c'est bientôt la Saint-Valentin. Voici un bon prétexte pour vous parler de films d'amour. Donc on va voir si vous êtes bon. Alors j'ai quand même fait un constat en préparant ce petit quiz. Les films d'amour sont en général soit totalement tragiques, soit désespérément fleur bleue. Donc j'espère avoir réussi à trouver un équilibre entre les deux. Voici ma première question. Il faut trouver de quel film je parle grâce au pitch. Alors, il s'agit de la romance qui ne devait durer qu'un été et qui se transforme en 20 ans d'idylle, bien que chacun épouse une autre personne pour échapper aux préjugés de l'Amérique profonde.
Oh là là.
Ah,
j'allais dire Roméo et Juliette, mais c'est pas ça.
Ah non, mais j'ai des indices pour vous.
Ah ouais.
Aide-moi. Alors, c'est un film qui a eu de nombreux prix, qui a été réalisé par Ang Lee.
Ang Lee.
Ah, Brokeback Mountain.
Oui, oh, bien joué.
Oh, bravo Lisa.
Le secret de Brokeback Mountain avec Jake Gyllenhaal et Heath Ledger. Ok, super. Bon, bah, on commence bien. Ma deuxième question. Alors, justement, on parlait de ça à l'instant. L'histoire de Roméo et Juliette, écrite par William Shakespeare à la fin du XVIe siècle, a été adaptée de nombreuses fois, notamment à la télévision. Pouvez-vous me citer deux adaptations cinématographiques marquantes ?
Roméo plus Juliette.
De Baz Luhrmann.
Ouais, absolument, avec Leonardo DiCarpaccio et Claire Danes.
Exactement. Je vais pas en avoir d'autres.
Une autre.
On peut dire que Twilight s'en est librement inspiré.
Bah, en fait, comme pas mal de films en vrai, oui. Comme Titanic et tout ça, mais moi je pensais à une adaptation un petit peu plus fidèle. Alors le Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann qu'on vient d'évoquer, il se passe dans un décor du XXe siècle, dans un quartier défavorisé et violent des États-Unis, avec le texte original. Et l'autre film auquel je pense, c'est un film de 61 qui se passe dans les années 50, avec deux gangs qui s'opposent.
Ah, ah West Side Story.
Yes, bien joué. Ah, et juste pretty. Pour le plaisir, je vous propose écoutez un petit extrait.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
Voilà pour cet extrait de West Side Story, chanson composée par Leonard Bernstein sur des paroles de Stephen Sondheim. Donc voici pour les deux premières questions. Pour l'instant, vous êtes plutôt bon. Hein. Ouais, on se retrouve tout à l'heure.
Eh bien, maintenant, après, merci Sandra du coup pour la première partie de ce quiz plutôt glam. Avant de te retrouver avec de nouvelles questions, tu enchaînes avec ta chronique spéciale consacrée au festival Premier Plan.
Alors c'est vrai que la semaine dernière se tenait dans notre belle ville d'Angers le festival Premier Plan. Alors Sandra, que retiens-tu de cette 35e édition ?
Évidemment, cet événement est toujours l'occasion d'entendre la parole des réalisateurs qui nous apportent une autre vision de leur travail et de voir en compétition des premiers films qui n'auront peut-être pas d'autres occasions d'exister sur les écrans français. On y savoure aussi le privilège de découvrir en avant-première des longs-métrages attendus ou plus confidentiels, qui valent le détour. Je vous reparlerai sûrement, au moment de leur sortie en mars et avril, de deux films qui m'ont bien plu, Empire of Light et Normal. Mais aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur ces occasions qu'on ne vit que dans un festival de cinéma comme celui-ci, de découvrir des propositions rares, différentes, insolites. Démonstration en quelques exemples de ces séances à caractère exceptionnel.
Alors Sandra, on commence par quoi ?
Par la lecture de scénario. Un scénario, c'est quoi ? C'est un document décrivant l'action d'un film, un récit narratif et descriptif comprenant les dialogues et des indications spatiales et temporelles, telles que intérieur-extérieur, le lieu de l'action, jour-nuit. Outre le fait que c'est intéressant de savoir à quoi ressemble ce type d'écriture spécifique, qui nous donne un aperçu du processus de création d'un film, c'est aussi une double expérience. D'abord, une expérience pour le lecteur comédien qui se prête à cet exercice d'endurance qui peut durer plus de deux heures, durant lesquelles nous, spectateurs, apprécions le ton, les respirations, le rythme, la gestuelle, en un mot, la performance. Mais la lecture à voix haute d'un scénario est aussi une expérience pour nous, auditeurs, qui sommes invités à faire travailler notre imaginaire pour construire l'univers d'un film et ses personnages avec, somme toute, assez peu d'indications.
Alors, puisque nous sommes liés au sonore et aux perceptions, j'imagine que tu vas nous parler de la séance sensorielle.
Absolument. Ce rendez-vous nous propose de découvrir l'audiodescription et de nous mettre un instant dans la peau d'un spectateur non-voyant en vivant une projection à travers son regard. Ça semble étonnant. Eh bien, c'est en trois étapes. Plongé dans le noir, on entend les premières minutes d'un film sans le support des images. Les interprétations vont bon train quant à ce que chacun a entendu, perçu, compris. Puis, on réécoute le même extrait avec le soutien de la voix de l'audiodescripteur qui détaille, avec des phrases courtes et des mots choisis, les indices qui permettent de visualiser les éléments essentiels de la scène. Tiens, l'interprétation change, l'univers visuel prend forme. Enfin, on apprécie le court-métrage dans son ensemble avec l'image cette fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se prend au jeu de fermer les yeux pour regarder ce film. Cette immersion, ponctuée des témoignages des aveugles présents, fait sensiblement évoluer notre perception.
Pour ton prochain exemple, on reste dans le rapport de l'image et du son ?
Absolument. Il faut assister une fois dans sa vie à un ciné-concert. Et je vois tout le monde qui hoche absolument la tête. Le concept, la projection de courts films en noir et blanc des débuts du 7e art, souvent des burlesques, qui sont accompagnés en direct par un ou plusieurs musiciens installés près de l'écran. En l'occurrence, cette année, les aventures des acteurs Buster Keaton et Laurel et Hardy étaient mises en relief par les sons émanant de l'orgue hybride d'Angers. Déjà, c'était génial d'entendre les rires des nombreux scolaires dans la salle. Mais en plus, on a conscience qu'on vit l'expérience des premiers spectateurs des années 1920 qui, plongés dans le noir, vivaient des instants pleins de vie. Car certes, les films étaient muets, mais les séances étaient loin d'être silencieuses, puisque musiciens, bruiteurs et autres bonimenteurs permettaient une interaction avec ce qui se passait sur la toile. Le rôle de la musique était alors de couvrir le ronflement du projecteur, conjurer le caractère stressant et fantomatique de l'image muette, souligner les intentions expressives ou narratives du court-métrage, ou simplement de donner à la projection l'allure des spectacles vivants auxquels le public était habitué.
Et tu as pu voir d'autres vieux films, je mets vieux films bien sûr, entre guillemets.
Oui, alors vous savez, ce cinéma dit de répertoire, des films anciens ou notables qu'on ne voit que rarement à la télévision et qu'il faut chercher en DVD. Donc autant dire que pouvoir apprécier des chefs-d'œuvre des années 1940, 50, 60 sur grand écran est une incroyable chance. Moi, non seulement je me délecte visuellement de ces pépites du passé, mais ce sont aussi des reflets d'une époque, d'une culture, d'une façon de filmer. Cette année, les plus vénards ont passé 2 heures en compagnie de Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon, grâce à certains Lem Show de Billy Wilder, ou dans les filets d'Alain Delon au plein soleil de René Clément.
J'ai cru comprendre que tu avais aussi vécu des expériences un petit peu hors des codes.
Je conclurai en effet cette chronique avec un mot sur ces objets filmiques inclassables que l'on retrouve dans la section diagonale du Festival Premier Plan et qui nous font dire qu'on a vécu quelque chose d'unique. Cette année, j'y étais happée par les 2 films récompensés par le jury. D'abord, Unrest nous emmène dans une vallée suisse au 19e siècle, au cœur d'une fabrique horlogère et du mouvement local des travailleurs anarchistes. C'est un rythme très particulier, alternant des personnages filmés de très loin, comme submergés par la végétation, et de très gros plans sur des mains qui nous montrent la minutie et la dextérité nécessaires à la confection de la mécanique du montre. On est un peu perdu quand on sort de cette immersion, comme en décalage spatio-temporel. Dans un tout autre genre, le documentaire Fragile Memory nous entraîne dans l'intime et l'histoire avec un grand H. On y suit la quête d'un jeune cinéaste ukrainien d'Odessa à la recherche du passé de son grand-père, un grand chef opérateur de l'ère soviétique. Alors que la mémoire du vieil homme se dissout, son petit-fils ressuscite des photos prises par celui-ci qui sont dans le même état que leur auteur, puisque la solution nitrate a fondu, altérant de façon incroyablement esthétique certains clichés. La confrontation est pour le moins marquante. Ah, encore un bien beau festival Premier Plan. Un grand merci à toute l'équipe qui met toute son énergie, sa passion et son savoir-faire pour nous régaler de ses découvertes.
Merci beaucoup et on enchaîne avec la pause musicale.
Tout à fait, alors je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la musique qui illustrait la bande-annonce du festival Premier Plan 2022 qui s'appelle Call Center, qui est composé par Ron et qui est issu surtout du film Les Olympiades de Jacques Audiard. Voilà. Et on notera d'ailleurs que la musique de la bande-annonce du festival 2023 est la même que le générique de notre émission Radio G. Voilà.
Ah là, là, on est des précurseurs.
Tout à fait. Plagia.
Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à applaudir en rythme chez vous pour retrouver les sensations du festival.
Oh,
Vous écoutez Caméra Subjective, le magazine cinéma de Radio G. Et maintenant, Claire, tu nous partages un regard de spectateur.
Oui, je vous propose de faire un petit saut dans le temps. Il y a peu, les cinémas Les 400 Coups ont fêté leurs 40 ans. Mais à l'origine de ce cinéma, créé en 1982, il y avait un cinéma associatif, le Club. C'est de cette époque et notamment de ce cinéma qu'Éric m'a parlé.
Je m'appelle Éric, voilà, et je vis dans un endroit qui s'appelle la Vallée à Rochefort-sur-Loire. Quand j'ai grandi, donc en milieu rural, nous on partait pas en vacances, on bossait, on était dans les champs, c'est un peu les enfants sauvages de Truffaut. Voilà, on vivait deux mois et demi l'été dans les champs. Voilà. Mais nous, on n'avait pas de manque, puisqu'on était plutôt heureux d'être libre. On ne sentait pas après les contraintes de l'éducation de nos parents, quand même. Il y avait quelques contraintes à avoir, mais autrement, on se sentait libre. Et je ne me sentais pas en manque de quelque chose. C'est quand tu découvres la vie avec les autres, c'est à travers les autres que tu t'aperçois qu'il te manque des choses. Je quitte ma campagne, j'arrive à Angers. Et quand j'arrive à Angers, je découvre qu'il y a des cinémas accessibles la semaine, ce qui est étonnant, et que je peux, le mercredi, où on n'a pas cours, me libérer avec deux, trois camarades pour aller assister à des séances de cinéma. C'est la première fois où j'ai la main, je deviens libre, et je choisis d'aller au cinéma moi-même. Voilà, C'est un moment important, je crois. Plutôt que d'aller traîner ou d'aller faire d'autres choses, nous, on allait au cinéma. Moi, quand je suis arrivé sur Angers, c'est les années 70. On allait au club pour des raisons financières, parce que c'était pas cher. Et puis aussi parce que, ce type-là de cinéma nous intéressait. Ce qui n'était pas forcément le cinéma commercial qui était présenté dans les autres cinémas. Et puis bon, à l'époque, faut aussi, on est quelques-uns à se côtoyer, on découvre la vie citadine, on arrive dans ce lycée Chevrolet, on découvre qu'on peut avoir des idées politiques, il y a les grèves de l'époque, on échange, il y a cette culture qu'on doit avoir pour améliorer son esprit critique. Et le cinéma en fait partie. Hein. Enfin, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on allait au club voir d'autres films qui semblaient mieux correspondre à notre recherche, à nos envies.
Alors prenez-la, puisqu'elle vous appartient à cette usine. Retournez-y, mais pour l'occuper. Vous devez faire comprendre à tous que vous y tenez plus qu'à votre foyer. Faites comprendre au patron, au pays, au gouvernement que c'est là votre vie et s'il le faut, votre mort. En avant, en avant.
Dans les années 70, ouais, ça commence à dater. Alors, ce qui est important, c'est là pour moi, c'est l'arrivée, moi qui sors d'un endroit où je ne vis pas en collectivité, c'est l'arrivée dans un endroit où je vis en collectivité. Donc là, c'est l'internat, donc c'est à la fois douloureux quand on n'a jamais vécu dans un endroit comme ça. Et à la fois, c'est la rencontre avec les autres et le fait de vivre ensemble. Donc avec ça, moi, je découvre qu'on peut effectivement... Je découvre qu'on peut se mettre en grève quand on est jeune, quand on ne travaille pas. Donc on voit nos camarades prendre la parole, donc on voit nos professeurs prendre la parole pour défendre les opprimés, hein, les faibles et les opprimés, en principe, c'est comme ça. On découvre, moi je découvre les clivages politiques. Et est-ce qu'on va avoir au cinéma à l'époque, notamment dans les films italiens, c'est ce cinéma qui raconte la vie réelle des gens, du peuple. C'est trop vaste, mais voilà, toute cette problématique qu'il y a autour de l'enrichissement par une minorité en exploitant une majorité. Donc voilà, on se forge avec en même temps que l'enseignement qu'on a, que les échanges qu'on a, que les débats qu'on a, que ce qu'on voit au cinéma, se forge vraiment une idéologie politique, on va dire ça comme ça. Et le cinéma vient nous montrer ça également à cette époque-là. Voilà, il nous montre que... Je fais toujours sa référence au cinéma italien parce que c'était vraiment facile à aborder dans ce cinéma-là. Dans le cinéma français, c'était pas aussi simple que ça. Truffaut, Godard ne racontent pas tout ça directement. Ils nous racontent ça dans un contexte, mais il ne nous fait pas directement un film sur une grève. Ce qu'a fait, je crois, les Italiens, je ne suis pas sûr sur Monicelli, mais bon, le film s'appelle Les Camarades. Après, on a Scola dans Nous sommes tant aimés. Enfin, il y a plein de... Tout ce cinéma-là nous conforte dans les idées qu'on commence à prendre une idéologie socialiste, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire communiste.
Buvez tous, mes amis. Sa Majesté de la demi-portion offre la tournée.
La tournée? Mais j'ai pas ma fête, dis donc.
Je vois que de l'eau, tu sais, Anthony.
Alors, bah quand même, portons un toast à l'amitié, à une humanité nouvelle, et demain, votez à votre idée. Mais votez surtout pour le Front démocratique et populaire. C'est pas pour faire de la propagande, hein. C'est parce que tout le monde est libre de voter pour qui bon lui semble. Mais demain, votez Garibaldi. Levons tous nos verres au Front démocratique populaire. Buvez aussi, monsieur le sous-chef archiviste.
Mais moi, monsieur, je suis un libéral.
Eh ben, qu'est-ce que ça fait? Buvez quand même! Et que les demi-portions d'aujourd'hui deviennent des portions entières demain!
Bravo.
Je lève mon verre à toi, à vous, à tous!
Donc oui, les déclencheurs, c'est les autres. Nous, on était obligés d'aller la chercher, la culture. On n'a pas offert ce truc-là. C'était pas sur le plateau, donc il a fallu qu'on aille. Et puis bon, c'est les rencontres qui font ça, les rencontres que tu fais. Alors, quand tu es dans une collectivité, c'est bien. Et toujours. Toi, on était à l'internat, tu es dans une classe, il y en a un qui dit. On est une classe. Enfin, une classe. C'était pas des classes, mais. On appelait ça des études à l'époque. Donc, on est 30. Donc, on va vivre ensemble en 9 mois. 8, 9 mois. Et puis, parmi ces 30, il y en a 3 qui aiment le cinéma. Il y en a 3 qui sont. Voilà, qui ont déjà eu. La chance d'avoir une entrée par là, une entrée, hop, qu'ils ont saisie et qu'ils vont pouvoir la transmettre à celui. Il y en a 3, c'est la musique. Moi, j'ai appris la musique, c'est pareil, quand je suis arrivé à la musique, je connaissais rien. Donc, il y avait 3, c'était 4, c'était la musique. Il y avait 33 tours qu'il fallait tout prier, écouter, qu'on allait retourner le disque. Il y en a 3, enfin, moi, c'était le sport aussi. Il y en a 3 autres. Il parle d'autres formes quand même. Donc tout ça fait que ça devient disponible, tout ça, quand on arrive à se rencontrer. Donc ça veut dire que la culture, elle est plurielle et elle n'a pas de sens sans les autres. Enfin, ça n'a pas de sens. Voilà, ça t'apporte une assise intellectuelle. Un patrimoine qui te permet après de pouvoir naviguer dans beaucoup de milieux sans être effrayé par d'autres classes sociales, hein, qui ont eu accès à ça très tôt. Donc, ouais, ça me met, ça te donne beaucoup d'assurance dans ce que tu vas construire après dans ta vie, parce que ça apporte un peu de grandes fondations à ta culture et aussi à ta façon de penser après. Quand tu as beaucoup de matériel à disposition, dans ce que t'apporte le cinéma et les autres formes d'art, quand tu as beaucoup de matériel à ta disposition, tu as beaucoup de matériel pour réfléchir, et je pense que tu es de plus en plus pertinent dans tes réponses ou dans tes choix. Donc oui, ça, tout ça, ça t'apporte ça. Tu l'utilises ou tu ne l'utilises pas. Ça vient, tu fais appel ou tu convoques tout ça à des moments particuliers. En tout cas, tu l'as. Et quand, le fait de l'avoir, ça te donne un peu plus d'assurance aussi dans ta vie. Il faut toujours lutter pour que ces endroits-là, ils existent pour tous les enfants, les adolescents, et dans tous les endroits. Ce qui est loin d'être gagné, je pense, pour l'instant.
Merci Eric pour ce témoignage. Merci Claire de nous en rendre compte. Et maintenant, sans transition, je vais chanter. Amour, amour, je t'aime tant. Êtes-vous prêts?
C'est dans quel film ça?
Nous retrouvons Sandra pour la seconde partie de notre quiz spécial Saint-Valentin.
Et oui, alors la question suivante n'est pas évidente, c'est là qu'on va voir si vous êtes bon. Ce film de 2000 tourné en Chine a relancé l'intérêt pour
In the Mood for Love.
Non, a relancé l'intérêt pour le genre cinématographique du Wuxia Pian, film de sabre chinois, sur fond d'amour impossible, d'honneur et de tradition. Le synopsis, dans la Chine ancienne, deux amis de longue date, déchirés entre leurs devoirs et la passion secrète qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, cherchent à ramener dans le droit chemin une jeune fille noble qui a dérobé une épée légendaire.
Roméo et Juliette.
Non. Est-ce que ça vous parle? Alors, et si je vous parle de combat à la cime des bambous, d'une forêt de bambous?
Ah ouais. Ah oui, oui.
Hein, ces scènes assez spectaculaires d'arts martiaux qui impriment la rétine, avec deux héroïnes fortes, combattantes, qui maîtrisent toutes les armes. Bon. Avec Michelle Yeoh. Non,
non. Je l'ai vu, hein, mais je n'ai pas le titre.
Alors, ça, le hasard refait que c'est un film d'Ang Lee, lui aussi. Mm-hmm. Tigre et dragon. Non, vous l'aviez pas?
Non.
Ben, je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher ailleurs que dans le cinéma français ou américain aussi.
Hein, ouais, donc, t'as bien fait.
Et en fait, c'est un film avec une double histoire d'amour qui se finit, à mon goût, de façon un peu trop tragique, sans vouloir trop en dire. Bon, la question suivante est beaucoup plus facile. Les films de Walt Disney regorgent d'histoires d'amour. Jusque-là, tout le monde est d'accord.
Ouais.
Dans lequel notre héros est-il un SDF et notre héroïne une privilégiée?
La Belle et le Clochard.
Bien joué.
Bravo, Matt.
Film de 55 avec Lady, vous savez, ce cocker spaniel américain qui vit dans le confort d'un foyer, et Clochard, chien errant et pris de liberté. Rappelez-vous cette scène trop cute où il mange des spaghettis et ça finit en bisous. Mais en fait, il y avait une deuxième bonne réponse à cette question, parce que sur le même modèle, on a les Aristochats.
C'est vrai.
Avec Duchesse, future héritière d'une riche vieille dame, et Thomas O'Malley, chat de gouttière séducteur, qui lui fait découvrir la bohème parisienne et les Scat Cat, groupe de chats musiciens. Vous vous souvenez de la chanson de Maurice Chevalier?
Tout le monde veut devenir un cat?
Ah non, la chanson du générique. Ça, c'est les Scat Cat. Effectivement, c'est une autre chanson du film qui est assez connue. Moi, je vous propose d'écouter Maurice, qui avait alors 80 ans et qui chante le thème du film Les Aristochats.
Quels sont les chats qui habitent les grands quartiers? Quels beaux minets ont le plus long pédigré? Quels chouchous dans la soie se prélassent? Naturellement, les aristocats. Quels doux mimis ont des profils de joconde? Quels chats trésors savent se tenir dans le grand monde? Très gourmets, refusant les ersatz, mais naturellement, les aristocats. Aristocats, ils sont toujours, même quand ils font un peu petit tour. Toujours précieux là où ils vont, ils sont fiers de leur éducation. Dédaignant les ruelles, ils préfèrent les bars aux poubelles, dont se contentent trop vulgaires les chats gouttières. Oh, waouh, quel miaou réprouve les gros mots. Quel chat chouchou s'estime sans défaut. Et devant qui les autres chats tirent leur chapeau. Mais naturellement, les aristocrates. Ils sont toujours, même quand ils font un petit tour, toujours précieux là où ils vont, ils sont fiers de leur éducation. Dédaignant les ruelles, ils préfèrent les bars aux poubelles, dont se contentent trop vulgaires les chats de gouttière. Oh, quoi ? Quel miaou réprouve les gros mots. Quel chat chouchou s'estime sans défaut. Et devant qui les autres chats tirent leur chapeau. Mais naturellement, naturellement, les aristocrates.
Merci Sandra. Tu vas nous en reproposer, dis des questions.
Ah bah oui, bon. Le meilleur pour la fin.
Alors à tout à l'heure. Et ben nous continuons maintenant avec le billet d'humeur de l'aristomate.
Vous allez voir l'aristomate. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très chers auditeurs, et bonne année. Je ne sais pas si on peut encore le dire, mais c'est un peu ma rentrée 2023 de caméra subjective. Alors normalement ce soir, pour ma rentrée, j'avais prévu de vous parler de la sainte trilogie qu'est High School Musical et de son importance dans l'histoire du cinéma. Mais malheureusement, priorité à l'actualité, car ce soir, je vous l'annonce, je vais pousser un coup de gueule.
Ah, oulala, ouais. Qu'est-ce qui se passe?
Car j'aimerais vous parler de notre duo de Gaulois moustachus préférés. Et non, je ne parle pas de Noël ma mère qui se regarde dans un miroir. Je veux bien sûr parler d'Astérix et Obélix qui sont de retour au cinéma avec Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Alors, dans toutes les émissions où ce dernier est passé, il nous a dit qu'il fallait absolument aller voir ce film, que ça allait sauver le cinéma français. Au vu des premières critiques presse et spectateurs, merci pour la tentative de sauvetage, mais non merci. Hein. Car malgré un budget colossal, un casting 5 étoiles, une communication massive, apparemment, Guillaume aurait oublié un élément essentiel pour faire un bon film, qui est apparemment de faire un bon film. Pourtant, il y avait tout pour réussir. Hein. Quand je parle d'un budget colossal, on ne parle pas des 12 millions de Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. Oui, Bienvenue chez les Ch'tis a coûté 12 millions. À mon avis, c'est la cascade en vélo qui a coûté un bras. Là, on ne parle pas de 12, on parle bien de 73 millions d'euros. Alors, je me suis demandé ce qui justifiait le prix de 14 600 Renault Kangoo 5 places. Et là, j'ai regardé le casting. Hein. On n'est pas sur un casting 5 étoiles, on est sur un casting Hôtel 5 étoiles. Vincent Cassel, Marion Cotillard, Aurel San, Laura Felpin, Big Flo Oli, McFly et Carlito, Angèle, Zlatan Ibrahimovic, Jérôme Commandeur. Je pensais d'ailleurs pas coller Jérôme Commandeur et Zlatan Ibrahimovic côte à côte dans la même phrase. Bref, Vincent Desagna, José Garcia, Audrey Lamy, Florent Manodou, Philippe Catherine, et j'en passe. Bon, on est tous d'accord pour dire que ça coûte pas un Happy Meal tout ça. Donc, on se demande comment ils ont eu le budget restant pour habiller tout le monde. Mais c'est vrai que quand je vois certains comédiens, comme par exemple Pierre Richard, je me dis, que diable allait-il faire dans cette galère? Voilà, j'ai aucune légitimité à critiquer ce film, mais je cite du Molière, ça fait classe. En tout cas, Guillaume, autour de la table, on t'en veut énormément. Pas parce que tu as monopolisé toute la sphère médiatique du 7e art, mais surtout parce que tu nous as empêché une super chronique sur High School Musical. À charge de revanche, hein, l'équipe de Caméra Subjective. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de vous, hein, parce qu'on a perdu la moitié des auditeurs qui sont partis chercher sur Internet qui était Noël ma mère. Mais en tout cas, à la prochaine et bonne fin d'émission à tous.
Merci beaucoup. Je pense que si ce film était à refaire, peut-être qu'il manquait un personnage. Il s'agissait de Matt Trix. Bon, avant de quitter l'antenne, Sandra nous a réservé un bouquet final de questions spéciales Saint-Valentin toujours.
Oui, on continue à parler d'amour. Alors, avec une question sonore, dans quel film entend-on ce poème que je vous propose d'écouter en entier?
Arrêtez les pendules, coupez le téléphone, empêchez le chien d'aboyer pour l'os que je lui donne. Faire taire les pianos et sans roulement de tambour. Sortir le cercueil avant la fin du jour. Que les avions qui hurlent au dehors dessinent dans le ciel ces trois mots. Il est mort. Nouer des voiles noires aux colonnes des édifices. Ganter de noir les mains des agents de police. Il était mon nord, mon sud, mon est et mon ouest. Ma semaine de travail, mon dimanche de sieste. Mon midi, mon minuit, ma parole, ma chanson. Je croyais que l'amour jamais ne finirait. J'avais tort. Que les étoiles se retirent. Qu'on les balaye. Démonter la lune et le soleil. Vider l'océan. Arracher la forêt. Car rien de bon ne peut advenir désormais.
Alors, désolée, hein, c'est pas joyeux, mais je trouve que c'est un poème magnifique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans ce film, il y a un titre où on se dit pas que c'est là qu'est le plus l'amour. C'est un film avec Andy McDowell et Hugh Grant, ça vous aide ?
Quatre mariages et un enterrement.
Absolument, ouais, c'est ça. Film britannique de Mac Newell. En fait, le titre dit quatre mariages et un enterrement. Et pour moi, c'est pas lors des quatre mariages que l'amour est le plus présent dans le film. Mais je trouve lors de l'enterrement, avec la lecture par le compagnon du défunt, de ce magnifique et intense poème de W.H. Auden, qui s'appelle Funeral Blues, aussi appelé Stop All the Clocks, et qui a été écrit en 1938. Alors, juste sur une note un peu plus joyeuse, parmi les moments les plus marquants du film, on croise pêle-mêle une ex surnommée Tronche de Canne, un mariage grandiose dans un château écossais, des dialogues en langue des signes, ou encore un coup de poing asséné au marié par la mariée devant l'autel. Et juste pour le plaisir, on retrouve Hugh Grant quelques années plus tard dans un autre film où il joue le rôle de l'anglais maladroit omnibulé par une américaine trop classe avec Julia Roberts.
Pretty Woman, non ?
Non.
Coup de foudre à, je sais
oui,
pas
lequel. Oui, coup de foudre à Notting Hill, bien joué.
Ouais,
alors, question suivante. Quels sont les noms des deux stars qui interprètent Rick Blaine et Ilsa Fund dans Casablanca ? Film de Michael Curtis de 43.
Je l'ai vu il y a tellement pas longtemps.
Bogart ?
Ouais.
C'est ça, c'est Bogart ?
Humphrey Bogart, ouais.
Et elle, Ava Gardner ?
Non. Très belle actrice qui avait joué dans pas mal de Hitchcock aussi.
On est très mauvais ce soir.
Son petit nom, c'est Ingrid. Ingrid Bergman.
Moi, j'avais un Marc Télémy, mais ça n'a rien à voir.
Ça ne marchait pas. Je vous conseille vivement de voir ce film qui est considéré par l'American Film Institute comme le troisième plus grand film américain, derrière Citizen Kane et Le Parrain.
Mmh. Ok.
Allez, ma dernière question, elle est musicale. Dans quel film français de 62 la protagoniste chante-t-elle cette chanson ?
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola.
Elle avait la dame.
C'est la musique de la pub Vichy Célestin, on est d'accord.
Non, mais c'est Julie Jim.
Bah oui, Julie Jim de François Truffaut. Paroles et musique écrites par Serge Resvani, qu'on entend ici à la guitare, et chantée par
Jeanne Moreau
dans ce film autour d'un triangle amoureux, qui est, alors ça je l'ai appris en faisant des recherches, c'est un remake de Sérénade à Trois, comédie de 1933 d'Ernst Lubitsch.
Mm-hmm.
Alors voilà, ainsi se termine ce quiz. Alors j'aurais pu vous parler de plein d'autres films, mais on n'avait pas le temps. Donc je vous laisse répondre vous-même à cette question. Quel est pour vous le plus grand film d'amour ?
High School Musical.
Laurel et Hardy.
Merci Sandra.
Chacun
merci
ses
infiniment.
Merci à tous.
Merci beaucoup. Caméra Subjective, c'est terminé. Merci de l'avoir écouté. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou les précédentes, nous contacter, nous envoyer des petits mots doux ou un billet d'humeur, rendez-vous à la page de l'émission sur radio-g.fr. Bonne soirée, bon film et au plaisir de vous retrouver mercredi dans deux semaines.
Bonne soirée.
Bonne soirée, bisous. Tout le monde. Et on est encore en avance, je tiens à le noter.
Bravo à tous.
Radio G.